Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mes bien chers frères, les béatitudes, la loi nouvelle, l'annonce que les chrétiens ont et la connaissance qu'ils ont de Dieu, tout est là. Mais voilà, tout semble bien compliqué, ou tout semble plutôt si simple que c'est inatteignable. Alors, faisons comme le Seigneur, montons sur la montagne, c'est ce que vous faites en venant à la messe, vous élevez votre âme, et je ne vais pas me mettre assis car seul le Seigneur s'assoit pour enseigner, c'est vous qui avez la position d'autorité, c'est-à-dire l'autorité de la foi de l'Église que vous avez pour écouter ce que je dis. Voyons d'une part ce que sont les béatitudes et d'autre part comment elles se réalisent. Voyons d'abord les béatitudes, qu'est-ce que c'est ? Alors qu'est-ce que c'est ? Je vais d'abord vous dire un peu d'apophatisme ce que ce n'est pas, parce que c'est beaucoup plus simple. Mais là c'est important parce que parfois il traîne dans l'oreille la sourde inconscience des gens que les béatitudes c'est une espèce de lot de consolation pour les chrétiens qui se consolent bien de toute façon de vivre malheureux parce que éventuellement au deuxième tirage, c'est-à-dire à la vie éternelle, peut-être ils auront la paix. Alors évidemment, cette conception grossière n'a rien à voir avec les béatitudes. C'est d'ailleurs ce que pensait mon philosophe favori, plus exactement mon ennemi favori, Nietzsche, qui pensait que les chrétiens avaient inventé ça pour se consoler de rater leur vie. Voilà. Comme ils n'étaient pas assez forts, pas assez puissants, pas assez guerriers, pas... Bref, au moins, ils pouvaient se consoler en se disant que, ben, alors comme ça... Bref, c'est la religion des faibles. Je le dis parce que ça traîne dans l'oreille de beaucoup de gens. Eh bien non, pas du tout. C'est pourtant évidemment troublant puisque à chaque béatitude qui est annoncée, c'est un futur qui est donné. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux, c'est le seul présent. Tous les autres, c'est du futur. Ils verront Dieu. Ils obtiendront miséricorde. Alors, ça semble accréditer, n'est-ce pas, la thèse que c'est pour après. Oui, mais voilà, la dernière béatitude et la première sont au présent. La dernière, ce n'est pas vraiment une béatitude, c'est un développement. Donc la première béatitude est au présent, le royaume des cieux est à eux, et ils ont la vie éternelle. Oui, l'erreur fondamentale de Nietzsche, c'est de croire qu'il n'y a pas de vie éternelle. C'est-à-dire que cette vie va se finir ici-bas, et que la fin de la vie n'est pas une fin, n'est pas une vraie fin, ce n'est pas une arrivée quelque part, c'est un terme, et qu'après, c'est foutu. C'est tellement foutu que, lorsqu'il l'a compris, il y a mis un terme. Eh bien non, nous le savons, la vie éternelle, elle est déjà commencée pour nous. La vie éternelle, c'est pour maintenant et pour l'éternité. C'est-à-dire que le temps que nous vivons aujourd'hui, il va devenir éternel. Il va devenir éternel autant qu'il existe vraiment, c'est-à-dire autant qu'il existe en Dieu, autant qu'il est bon, autant que c'est du bien. Tout le reste partira en fumée. Alors, voilà ce que n'est pas la béatitude. C'est vraiment un programme pour aujourd'hui. C'est une loi. C'est osé de dire ça, hein ? Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des lois, au moins, pourriez me dire, elles étaient bien claires. Il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. On en a gardé. On a quitté les prescriptions juridiques, ce qu'on appelle les prescriptions juridiques de la loi mosaïque, et nous avons gardé les commandements fondamentaux de la vie. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, etc., etc., etc. Vous les connaissez. Ici, vous n'avez pas de mal à croire que ce que je viens de vous dire, c'est une loi. Quand je vous dis que heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent, heureux les doux, de vous dire que c'est vraiment une loi, ça paraît un peu compliqué. C'est compliqué parce que dans cette loi, il n'y a pas de prescription précise. C'est un état qui est visé. Ce que cette loi vise, c'est le résultat. Ce n'est pas le moyen. Le moyen, vous allez le trouver par vous-même. C'est votre conscience qui est convoquée. Vous voyez, quand à un enfant on dit fais pas ci, fais pas ça, dis bonjour à la dame, mets pas tes doigts dans le nez, pour prendre des exemples grossiers, certes, mais tout de même opératoires, eh bien, c'est que c'est encore un tout petit enfant. À vous, il serait déplacé de donner ce genre de conseils. Et pourtant, vous savez qu'il y a des choses qu'il faut faire et d'autres pas faire. Car le pédagogue qu'est la loi vous a enseigné et maintenant vous êtes libre. C'est votre conscience qui, sachant que c'est le bien à réaliser, se porte à ce qui est bon. Aime et fais ce que tu veux, dit saint Augustin. Non pas qu'il prônait une libéralisation des mœurs, mais au contraire, l'exacerbation de la conscience qui voit le bien et le réalise. C'est ça la loi nouvelle. La loi nouvelle ne se préoccupe plus du moyen qui vous est laissé parce que maintenant nous sommes grands, nous avons le Christ avec nous. Il vous est donné simplement le but, ce résultat, la béatitude. Et oui, fais pas ci, fais pas ça. Si jamais ça devait durer dans la vie, cela ne serait plus une morale chrétienne. La morale chrétienne est une morale du bonheur. Il n'y a pas d'autre raison à l'existence des lois morales que notre bonheur. C'est ce qu'il y a de plus traditionnel. Ne croyez pas que je vous fasse de la démagogie à 100 sous pour aujourd'hui. Saint Thomas d'Aquin, dans son traité sur la morale, dans la Somme théologique, commence par le premier chapitre des Beatitudine. Oui, nous ne respectons pas la loi parce que c'est simplement marqué. Nous voulons vivre de la loi parce qu'elle nous mène vers Dieu. Et la traduction qui est faite ici, c'est une traduction au petit pied, je suis désolé de le dire. Je suis désolé qu'on ait changé, qu'on n'ait pas encore osé dire, pas heureux les pauvres de cœur, heureux ceux qui pleurent. C'est bien heureux. Ce que nous voulons, c'est la béatitude éternelle. C'est pas juste qu'aujourd'hui on soit content. On s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est le bonheur qui est la plénitude de la capacité de mon être. Quand mon être sera plein de bien, c'est-à-dire quand il sera rempli de la grâce de Dieu, qu'il n'y aura plus de place pour mes bêtises. C'est ça le bonheur. Le malheur, c'est la place du péché, c'est la place de la concupiscence. C'est ça le malheur qui nous enchaîne. Le bonheur, c'est de réaliser le bien. C'est de vivre du bien. Les gens les plus heureux sont évidemment les gens les plus vertueux. Plus vous ferez le bien, plus vous serez heureux. Ne vous laissez pas avoir par ceux qui vous vendent des marionnettes fumeuses, une fois de plus, qui vous mèneront là où on fume, c'est-à-dire en enfer. La morale chrétienne vous guide vers le bien. Non, ce n'était pas une assertion anti-tabac. Vous pouvez fumer et voir Dieu. D'ailleurs, il y a de l'encens à la messe. Comme vous le voyez, l'Église n'est pas ennemie toujours de la fumée. En tout cas, quand elle sent bon, qu'elle s'élève et que c'est une prière. C'était mon premier point. Qu'est-ce que la béatitude? Le deuxième, alors je ne vais pas aller plus avant dans la béatitude parce que vous allez me dire, monsieur l'abbé, vous êtes gentil, mais vous ne nous avez pas dit le plus intéressant, en quoi ça consiste cette béatitude. C'est difficile à saisir. Je regardais cet après-midi un livre d'art magnifique qui m'a été offert et je dénombrais, non sans curiosité, le nombre des peintres qui ont peint l'enfer. Et c'est drôlement saisissant. Ça a l'air très vrai. Alors évidemment, ce sont des images qui sont prises, mais en tout cas, ça ne donne pas envie d'y aller. Le nombre des peintres qui s'est aventuré à peindre la béatitude, le paradis, ils ne sont pas nombreux. Parce que le paradis, c'est inatteignable. Une fois de plus, le mal est quelque chose de fini, de déterminé. Le bonheur, le bien, c'est inatteignable. Ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'esprit n'a pas prévu ni entendu, ce que l'oreille n'a pas entendu, voilà ce que Dieu a prévu pour ses élus. La béatitude, c'est au-delà de tout. Bien sûr, vous savez, le bienheureux Fra Angelico, mais c'est parce qu'il est saint. Lui s'est permis de peindre le paradis comme une amitié entre les anges et les hommes, inatteignable, certes aujourd'hui, mais inadmissible. Alors voyons comment on passe à l'action. Qu'est-ce que c'est que ces béatitudes? J'en dis un petit mot rapide sur chacune. Il y en a huit. La huitième se divise un peu. D'abord, les pauvres de cœur. Les pauvres de cœur, c'est ceux qui acceptent de ne pas s'encombrer le cœur avec des bêtises. Vous voyez, de temps en temps, je me retiens. Eh bien, c'est-à-dire ceux qui acceptent de faire de la place pour Dieu, ceux qui acceptent de faire de la place pour les autres, ceux qui ne s'enferment pas sur eux-mêmes. Voilà, dans la vie, j'ai trois amis. J'aime le chocolat, le foot et la bière. Vous pouvez choisir d'autres. Voilà. Et puis, ça suffit. Eh bien, voilà, ça s'appelle un enfermement. Les pauvres de cœur, c'est ceux qui sont capables de se déprendre, même de ce qu'ils aiment, pour aimer plus. Si j'ai un ami qui aime le foot, parce que moi, je déteste ça, eh bien, si j'ai vraiment un ami qui aime le foot, je vais aller au foot avec lui. Pas grave. Ça n'a pas beaucoup d'importance. L'important est de savoir ce que j'aime vraiment. Heureux ceux qui pleurent, ceux qui se laissent toucher, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas parisiens. Vous savez, quand on est plus étonnant, c'est quand on arrive à Paris, on se dit, les Parisiens sont des êtres sans cœur, impassibles, tel Bouddha. Vous pouvez passer devant eux, leur faire un sourire, leur dire bonjour. Un Parisien, ça ne répond pas. Excusez-moi cet anti-parisianisme, je finis par en être parfois, c'est pour ça que je suis obligé de me corriger. Heureux ceux qui se laissent toucher, ceux qui peuvent être émus et pleurer. Heureux les doux. Le pape avait rappelé au début de son ministère, pape François, que la douceur, c'était la vertu des forts. Eh oui, la douceur, contrairement aux philosophes que j'ai déjà cités, c'est pas la vertu des faibles. La douceur, c'est la vertu des doux. Vous l'avez peut-être déjà vu, entre un petit chien et un gros chien, celui qui crie le plus fort, c'est le petit. Parce qu'il n'est pas assez fort pour vous faire peur de lui-même. Eh bien, nous aussi, parfois, nous crions beaucoup, nous faisons peur. Soyons plus forts. Soyons plus audacieux, essayons de ne pas faire peur. Parce qu'il y en a qui font peur, on dirait que non seulement c'est des chiens, mais en plus on dirait que c'est une espèce de vieux chien dans un coin à qui on vient d'arracher sa gamelle. Vous voyez ? Alors, soyons plus forts que notre lassitude, soyons plus forts que ce qui nous entraîne à faire la gueule, et soyons doux, soyons bons. Prenez de temps en temps un tout petit enfant dans les bras, quand la mère veut bien vous le confier. C'est dur quand on est prêtre, parce qu'ils se disent, c'est un célibataire, il ne va pas savoir, on va le mettre par terre. Alors, quand vous avez un tout petit enfant dans les bras, vous savez ce que c'est que la force, qui donc est une douceur, qui est une précaution. Et puis, heureux les miséricordieux, pardon, ceux qui ont soif de justice, ceux qui sont déchirés, dont le cœur est déchiré parce qu'ils voient l'injustice. Les petits-enfants, une fois de plus, eux savent ce que c'est que l'injustice. C'est inscrit dans leur cœur. C'est après qu'on s'arrange. Saint Jean Chrysostome dit « Celui qui ne se met pas en colère devant une injustice, celui-là commet un péché. Laissez-vous interpeller par la justice. » Heureux les miséricordieux, on vient de vivre l'année de la miséricorde. Et le pape a ressorti un texte pour nous dire que c'était pas fini. L'année peut-être est terminée, mais ce n'est pas fini que notre cœur puisse se mettre à la hauteur de la misère des autres, et peut-être aussi d'ailleurs de la nôtre. Heureux les cœurs purs, heureux ceux qui vont lancer une croisade de la pureté. J'en ai marre que le problème de tout le monde soit de la pornographie, que le problème de tout le monde soit l'avidité. Ce sont les mêmes problèmes en fait, hein. L'avidité des biens charnels, des biens matériels. Heureux les cœurs purs, ceux qui vont purifier leur regard, ceux qui vont se déprendre des plaisirs du monde pour les mettre à leur juste place. Heureux les artisans de paix, je ne développe pas parce qu'il y a un travail phénoménal à faire, là où vous travaillez, dans vos classes, dans votre travail, dans vos familles, dans le pays, partout. Il nous faut faire établir la paix. Enfin, bienheureux êtes-vous si l'on vous insulte à cause de mon nom, si on commet une injustice parce que vous êtes chrétien. Oui, ça veut tout simplement dire nous ne sommes pas masochistes, nous n'aimons pas l'injustice, nous n'aimons pas être maltraités. Cela veut simplement dire que nous aurons la certitude d'avoir vraiment manifesté quelque chose, d'avoir appelé au bien. C'est difficile de manifester le bien, parce que c'est difficile d'en vivre d'abord, et qu'ensuite c'est difficile de le soutenir. Ne vous inquiétez pas quand la manifestation que vous faites du bien appelle la critique et même la moquerie. C'est tout simplement que vos contradicteurs et vos moqueurs ne peuvent en vivre. Soyez miséricordieux aussi avec eux, appelez-les à convertir leur cœur. Bref, pour finir, vous allez me dire, tout ça, ce n'est pas tellement réalisable. Eh bien si. Avec la grâce de Dieu, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Vous allez chacun d'entre vous entrer par une porte, la porte de cet octogone dans lequel Dieu habite. Car dites-vous bien que c'est le Christ qui a réalisé toutes ces béatitudes. Celui qui est vraiment pauvre de cœur, c'est celui qui de Dieu s'est fait homme. Celui qui pleure, c'est celui qui pleure sur Jérusalem et sur ses enfants. Celui qui est vraiment doux, c'est celui qui refuse de s'adjoindre les armées célestes pour détruire ses ennemis. Celui qui a soif de justice, c'est celui qui a pris la peine de nos péchés sur lui. Celui qui est miséricordieux, c'est celui qui nous aime d'un cœur vraiment profond. Celui qui a le cœur pur, c'est celui qui est sans tache. Celui qui est artisan de paix, c'est celui qui, des deux peuples, les juifs et les païens, n'en a fait qu'un seul. Celui qui a été moqué en raison de l'injustice, comme l'a très bien dit le bon larron, c'est le Christ lui-même. Vous le voyez, mes frères, nous n'avons qu'à nous identifier, nous laisser identifier au Christ, par la grâce de Dieu, qui, bien au-delà de nos désirs et bien au-delà de nos forces, va faire de nous, va faire de chacun de vous le vrai visage du Christ en ce monde, le moyen du salut, l'Église annoncée à tous les peuples.